VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h, temps universel, dans 5 minutes, Carrefour avec Eric Manirakiza. Mais tout d'abord, les nouvelles. En visite dans le nord du Nigeria, le secrétaire d'État américain John Kerry a félicité l'armée nigériane dans sa lutte contre Boko Haram, mais aussi mis en garde contre les abus contre les droits de l'homme. Claire Morin-Gibourg.
John Kerry s'est exprimé après avoir rencontré le sultan de Sokoto, l'autorité religieuse de l'extrême nord du Nigeria. L'extrémisme ne peut pas être vaincu grâce à la répression ou la peur. La répression entraîne la défiance et engendre des terroristes, a déclaré le secrétaire d'État américain, en soulignant l'importance de valeurs comme l'intégrité, la bonne gouvernance, l'éducation et le respect des droits de l'homme pour un combat efficace contre la violence extrême. De nombreuses ONG ont à plusieurs reprises accusé les troupes nigérianes d'avoir usé d'une force excessive ou d'avoir commis des crimes extrajudiciaires contre des supposés insurgés de Boko Haram. John Kerry a néanmoins assuré que Washington continuerait sa coopération militaire et humanitaire avec le Nigeria. Début août, l'USAID a annoncé une enveloppe supplémentaire de 37 millions de dollars pour répondre à la grave crise alimentaire causée par l'insurrection.
Après sa visite à Sokoto dans le Nord, le secrétaire d'État américain s'est rendu à Abuja, la capitale nigériane, pour des consultations avec le président nigérian Muhammadu Buhari. John Kerry n'a pas fait de déclaration publique après les entretiens. À noter aussi que l'armée nigériane a annoncé aujourd'hui que le chef de Boko Haram, Abubakar Shekau, avait été sérieusement blessé et plusieurs commandants du groupe islamiste tués lors d'un raid aérien gouvernemental sur le bastion du nord-est du pays. Mais l'armée nigériane a déjà annoncé plusieurs fois la mort d'Abubakar Shekau qui réapparaît régulièrement sain et sauf dans des vidéos du groupe. En RDC, l'appel de l'opposition congolaise à observer une journée ville morte ce mardi sur tout le territoire national a été partiellement suivi à Kinshasa et ignoré dans d'autres grandes villes du pays. Le point avec Bagassi Koura.
À Kinshasa, à la mi-journée, sur le boulevard du 30 juin, le centre des affaires de la capitale congolaise, la circulation était fluide. Selon l'AFP, les bouchons de l'heure de pointe n'ont pas été constatés. Au grand marché de Kinshasa, 2 magasins sur 5 ont ouvert, mais les vendeurs se plaignent de la rareté des clients. Selon des journalistes de l'AFP, à Lubumbashi, deuxième ville du pays dans le sud-est, les activités se sont déroulées normalement, tout comme à Beni, Goma et Bukavu, trois villes de l'Est, ainsi qu'à Kisangani, dans le Nord-Est. L'appel à une journée ville morte a été lancé par le Rassemblement. C'est une coalition politique réunie autour de l'opposant historique Étienne Tshisekedi afin de réitérer son rejet du facilitateur désigné par l'Union africaine pour le dialogue politique national en RDC, l'ancien premier ministre togolais Edem Kodjo.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Le vice-président américain Joe Biden a réaffirmé aujourd'hui l'engagement des États-Unis envers l'OTAN, notamment l'article 5 qui stipule que toute attaque contre un État membre constitue une attaque contre toute l'Alliance Atlantique. John Lindon.
Le numéro 2 de l'exécutif américain prenait la parole devant des membres de la presse à Riga, capitale de la Lettonie. Le gouvernement américain maintient son engagement à défendre les intérêts de l'OTAN où qu'il se trouve. Washington défendra les pays baltes contre toute agression de la Russie voisine, a dit Joe Biden. Je veux que ce soit clair, absolument clair pour toutes les populations des pays baltes. Nous engageons l'honneur des États-Unis à défendre le traité de l'OTAN et l'article 5. Notre parole est d'or. Nous avons toujours honoré nos engagements car il y va de l'honneur de l'Amérique, a poursuivi le vice-président. M. Biden a minimisé les déclarations du candidat républicain Donald Trump, suggérant que les États-Unis pourraient ne pas défendre automatiquement ses alliés de l'OTAN en cas d'attaque si ses alliés ne remplissent pas toutes leurs obligations financières envers l'organisation. Sa visite à Riga visait donc à rassurer ces jeunes nations, tandis que la Russie semble de plus en plus se montrer menaçante. Demain, il se rend en Turquie avant de prendre part jeudi en Suède à une rencontre sur la crise migratoire en Europe.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Merci de votre attention. Bonne soirée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Heureux de vous retrouver, chers auditrices et auditeurs de Carrefour Sciences et Santé. Vous écoutez VOA Afrique, Eric Manirakiza avec vous. Aujourd'hui, nous faisons le tour d'horizon de certains pays sur le continent frappés par le choléra, le Burundi, le Centrafrique et l'Ouganda. Nous irons en Haïti pour parler toujours de choléra qui a fait près de 10 000 morts depuis octobre 2010, dont l'ONU a reconnu son rôle dans l'épidémie. Je vous invite également à découvrir les Jardins de la Victoire au Malawi. Et sans doute que vous l'avez déjà appris, la Chine a lancé un satellite quantique, une première mondiale. Si vous voulez en savoir davantage, restez avec nous sur VOA. Je vous le disais tantôt, le choléra s'est déclaré dans certains pays africains. Cette épidémie est une maladie infectieuse qui se propage habituellement par l'eau contaminée. Elle cause une diarrhée sévère et une déshydratation et peut conduire à la mort si elle n'est pas traitée. La première destination, l'Ouganda. Des dizaines de cas ont été signalés dans un centre d'accueil pour les réfugiés sud-soudanais. Les autorités sanitaires tentent d'arrêter la propagation de la maladie, mais elles se heurtent au surpeuplement et à de fortes pluies en cours. Restons en Afrique de l'Est, mais cette fois au Burundi, ce pays à nouveau touché par une épidémie de choléra. Nous faisons le point avec le porte-parole du ministère de la Santé publique, Tade Ndikumana.
Depuis le 27 juillet 2016, nous avons observé une recrudescence de l'épidémie de choléra. C'est précisément le district sanitaire de Kabezi, dans Bujumbura, communément appelé Bujumbura Rural, et aussi le district sanitaire Merisid, où nous avons jusqu'à aujourd'hui enregistré 99 cas de choléra. Mais grâce à l'intervention du ministère de la Santé et aussi grâce à la prise en charge gratuite des cas de choléra, 70 malades ont été traités et guéris, et maintenant ils sont entrer dans leur ménage. Actuellement, nous restons avec 18 patients qui sont arrivés dans ces trois derniers jours. Nous déplorons un seul cas de décès qui est survenu suite à une complication liée à la diarrhée, mais aussi qui était liée au paludisme.
Comment expliquez-vous que le choléra revienne comme ça au Burundi? Ce n'est pas la première épidémie de choléra qui se manifeste dans votre pays?
Et effectivement, ça se observe surtout au niveau de la région de Limbo, parce que comme les études l'ont montré, les vibrio chorale se trouvent surtout au niveau du lac Tanganyika, et c'est au niveau de la plaine qu'on observe souvent des cas de choléra, mais à l'intérieur du pays, ces cas ne se observent pas. Et c'est lié surtout aux grandes agglomérations, mais aussi à ces réservoirs d'eau qui contiennent ces vibrio chorale et consécutivement à qui sont aussi liés au manque d'hygiène, surtout la non-disponibilité de l'eau potable. C'est pour cela que nous interpellons la population à toujours bouillir l'eau, surtout avant de le consommer pour tuer ces vibrio chorale, mais aussi de pouvoir appliquer les mesures d'hygiène telles que le lavage des mains avant de manger, mais aussi après les toilettes.
Merci Anastasie Toudiech pour cet entretien. Centrafrique, pays déjà ravagé par trois années de conflits intercommunautaires, a enregistré au moins 19 morts sur 161 cas depuis le début du mois d'août, dont un à Bangui, où il a été diagnostiqué par l'Institut Pasteur. La ministre de la Santé a invité la population à respecter les mesures d'hygiène de base pour endiguer l'épidémie. Nous avons joint le chargé des programmes au sein de l'OMS, le docteur Richard Fautzing.
Selon les différentes enquêtes qui ont été menées, les différentes investigations épidémiologiques qui ont été menées, le principal facteur, c'est la consommation de l'eau du fleuve qui est à l'origine de cette grosse épidémie qui touche principalement les villages qui sont situés le long du fleuve Ubangi.
Oui, donc c'est la consommation de cette eau. Est-ce qu'il n'y a pas des mesures de prévention?
Les populations consomment l'eau du fleuve parce qu'elles n'ont pas accès aux points d'eau potable. Donc il n'y a pas de points d'eau aménagés ou des forages dans les villages, ce qui fait que les populations n'ont pour...